Des grands champions, on connaît précisément leur carrière, leurs exploits, leurs records, mais pas vraiment l'autre côté de leur médaille d'or. Et bien souvent, c'est les petites histoires derrière les athlètes qui leur permettent d'écrire leur grande histoire. Jules, un poète marseillais, a chanté « Je me vois partir sous le sun, nager dans l'eau, faut pas qu'on me laisse seul, je suis parano ». Notre invité a beaucoup nagé dans l'eau et il partirait bien sous le sun, mais il est absolument pas parano, champion épisode 4 avec le nageur Camille Lacour.
Comment est-il ?
Un champion du monde.
Il est champion olympique!
Champion, mon frère!
Question pour un...
Champion du monde!
We are the champions!
Ce qui m'intéresse, ce sont les super champions.
Salut Camille, est-ce qu'on peut se tutoyer déjà? Ça sera plus simple.
Non, je préférerais pas.
Tu veux qu'on se vouvoie? On peut le faire que en vouvoiement, mais ça va être plus compliqué. Alors, on va commencer par rappeler ton palmarès. Donc, 5 fois champion du monde, 5 fois champion d'Europe de natation, évidemment, et 16 fois champion de France. Et alors, il paraît que tout ça, c'est grâce aux Acariens et à une voisine. Tu peux nous expliquer
Ouais, c'est vrai que ça a commencé comme ça au départ. Donc moi je suis originaire de Font-Romeu et c'est vrai que quand j'étais tout petit, on est parti là-bas à la montagne parce qu'en fait j'avais beaucoup d'asthme, de bronchite asthmatiforme quand j'étais à Paris. Ouais. Et donc on est parti à la montagne où en fait il n'y a pas d'acariens et j'ai commencé à grandir là-bas. J'ai commencé à nager là-bas parce que ma voisine amenait ses enfants et à partir de là l'aventure a commencé.
Parce qu'en plus à Font-Romeu ouais, c'est plutôt du ski quoi. C'est Martin Fourcade, il vient de
Font-Romeu. Ouais, j'étais dans la même classe que son frère, moi,
ah ouais,
que Simon, ouais. Et c'est vrai que là-bas il y a du ski aussi, mais il y a aussi une piscine. Il y a la piscine, le centre d'entraînement a été fait pour les Jeux de Mexico.
Ouais.
Donc il y a aussi un bassin et j'ai commencé à plonger là-bas un peu par hasard. Mais j'ai fait du ski aussi, mais j'étais un petit peu meilleur dans un bassin.
Et alors à quoi se ressemblait ta vie d'ado à Font-Romeu?
Ça se passait bien. Moi je faisais de la piscine, ce qui était cool, avec des potes. Jusqu'en troisième, je m'entraînais une fois par jour. À partir de la troisième, je suis passé à deux fois par jour. Ah ouais. Je passais à deux fois par jour sur ma deuxième, troisième. Mais j'étais pas vraiment un sportif professionnel, quoi. J'étais vraiment un jeune lambda qui faisait du sport et j'avais une vraie bande de potes avec qui on aimait s'amuser. Et sur les quelques années où j'ai commencé à vraiment m'entraîner deux fois par jour, où on peut penser que je veux faire du haut niveau, c'était pas du tout le cas. C'était que ça me faisait un corps plutôt correct. Ça faisait plutôt fille à l'époque. C'est ce qui me faisait pas trop de mal.
Tu m'as dit ta deuxième, troisième, c'est-à-dire
j'ai retiqué la troisième. Ouais.
Et en cours, t'étais comment? T'étais plutôt près du radiateur?
C'est ça. J'étais, tu sais, deuxième, troisième rang à côté du radiateur. Donc, agréable fumiste, il y a déjà eu sur mon bulletin.
Agréable, ah oui, pas mal. Tu te rappelles des...
Ah, celui-là, il était bon. Le plus beau que j'ai eu, j'aime bien le raconter quand même, c'est si Camille s'investissait autant dans les études que dans le jeu de cartes, les félicitations seraient de mise. Celui-là, je l'ai retenu par cœur parce qu'il est quand même bijou.
Et tes parents, ils étaient comment avec toi là-dessus sur le...
Quand il y a eu le agréable fumiste, ouais. Ma mère était quand même colère et mon père a éclaté de rire en disant « Oh, moi aussi, je l'ai eu ». Et en fait, ma mère s'est directement retournée vers mon père et toute la colère a été transférée vers lui en disant « Mais tu peux pas lui dire ça !» Et du coup, je savais que j'avais un petit appui, donc voilà.
Donc papa cool, quoi.
Ouais, moi, ma mère aussi, mais c'était juste... j'aimais pas écouter un prof me raconter une leçon, en fait. J'étais pas si con, mais c'était pas quelque chose qui m'intéressait beaucoup.
Et tu faisais beaucoup la fête ou pas entre 16 et... Parce que, bon, tu disais que tu voulais pas être pro, mais tu t'entraînais quand même beaucoup. Comment on fait pour concilier tous les entraînements et en même temps la vie d'un ado normal, quoi, qui a envie de faire la fête?
Ouais, jusqu'à 22 ans. J'ai pas commencé à 16 ans, je commençais un peu plus tard. Mais de 18 à 22 ans, je faisais grave la fête. Je pense qu'il y a peu de week-ends où je restais chez moi. Mais je pense qu'il faut que jeunesse se fasse et moi j'avais vraiment besoin de ça. Après, je me mettais pas, je me la collais pas tous les week-ends, mais c'est vrai que les nuits elles étaient assez courtes le samedi soir. Et voilà, j'avais besoin d'être avec mes amis qui faisaient pas forcément du sport. Et le reste de la semaine, je faisais un peu le job. Mais pour être sportif de haut niveau, il faut pas faire que le job. Et là, c'était vraiment ce que je faisais. Je faisais le strict agréable fumiste dans un bassin aussi. C'était ça.
Et alors, t'écoutais quoi? C'était quoi, ado? C'était quoi tes groupes?
À l'internat, j'écoutais Louise Attack. Il y avait IAM et NTM. Parce qu'on était par chambre de 4, du coup, il y en avait deux qui étaient un peu Lyon et au-dessus. Donc c'était NTM. Et nous, on était IAM parce qu'on était dans le sud. Du coup, on se faisait des petits battles. Et voilà, il y a eu Kyo aussi à ce moment-là. Donc,
oui, Kyo.
Ouais, c'était toutes les musiques.
Ils reviennent apparemment, j'ai entendu dire là, il y a dans pas longtemps.
Ils ont beaucoup écrit, je sais, mais je savais pas que le groupe se revenait.
Et je crois qu'ils voulaient, avec Ben Power. Ouais. C'était le chanteur.
Et du coup, voilà, on écoutait un peu tout ça. Louise Attaque, ça tournait en boucle, c'était un truc de fou.
Tu m'as dit que t'es dans un internat avec que des mecs, du coup, ou...
Il y avait, dans notre étage, il y avait que des mecs, mais il y avait un étage avec des filles aussi.
Et c'est cool, le grandir à l'internat, la vie à l'internat et tout, quand t'es jeune.
J'ai intégré l'internat, je devais avoir 16 ans, 15 ans. Et c'était les meilleures années de ma vie.
Ah ouais.
Ah, je me suis régalé. Les potes avec qui j'étais dans la chambre, je suis parrain de leurs enfants. Enfin voilà, ouais, on est vraiment super potes, proches. Ouais, ouais, on est toujours proches 20 ans après.
Et alors avec les filles, pareil, quand t'as 16, quand tu commences à avoir 15, 16 ans, que tu commences un peu à flirter avec les filles, tu disais donc que tu faisais de la natation parce que ça te faisait un corps pas trop mal. Ça va, tu l'as gardé, quoi, à peu près. Comment ça se passait avec les filles à cet âge-là ? T'étais déjà
Non, ça a été compliqué, moi. J'ai eu vraiment jusqu'à 17 ans, ça a été... J'ai grandi
t'étais
d'un coup,
timide,
donc...
Ou...
Non,
ah,
ça, ça allait. Non, j'étais déjà grand, mais j'étais vraiment tout maigre, en fait. Donc, s'il y avait une rafale de vent, tu me retrouvais dans l'autre classe. J'avais de l'acné, et j'avais un appareil dentaire, et les cheveux cramés par le chlore. Laisse tomber, c'était un combo. Un combo clairement pas très, très attractif pour la gente féminine. Et à partir de 17 ans, ça a commencé à se renverser gentiment. Et du coup, quand on a une vingtaine d'années et qu'on sent que la vapeur change de camp, on en profite un petit peu. Mais voilà, c'était une période.
Et tu peux me parler de parce que j'ai lu dans ton autobiographie une histoire avec ton premier amour, enfin ton premier big, on va dire.
Je crois que j'étais en 6e ou en 5e. J'avais eu un petit crush pour ma collègue de classe qui faisait du patinage artistique.
Ouais.
Et du coup, je lui demande, tout timide, je prends mon courage à deux mains et je lui demande si elle veut bien sortir avec moi. Et donc elle me dit, je te réponds tout à l'heure. Et donc moi, j'étais presque en confiance et je l'ai vu rigoler avec des grands, en fait, en me regardant. Ça a été dur. Je me suis senti tout petit. J'étais là, oh non, c'est trop violent. Il y a eu une petite vengeance parce que 10 ans après, quand j'ai commencé à être connu, je l'ai recroisé en soirée et c'est elle qui, par contre, voulait rentrer avec moi. Et j'ai mis un gros vent en fin de soirée, genre en disant...
Le karma ouais.
Et pourtant, c'était encore une jolie fille et tout, mais c'était trop plaisant de me venger. C'était ouais. petit truc de gamin, quand même.
On dit souvent que les sportifs de haut niveau font des sacrifices. Finalement, toi, j'ai l'impression que t'as pas eu à en faire énormément, non ? Ou en tout cas...
Avec le recul, j'ai l'impression que ce mot sacrifice, il est mal utilisé. Je pense qu'un sportif de haut niveau, il fait des choix. Et si c'est des sacrifices, c'est qu'il faut pas qu'il fasse ça. Et à ce moment-là, j'avais pas envie de faire le choix d'être un sportif de haut niveau. Il est venu ça m'est venu à moi plus tard. Mais à ce moment-là, c'est pas comme ça que j'ai envisagé ma vie. Et du coup, je vivais ça pleinement, quoi.
Et est-ce que du coup, à partir du moment où tu t'es dit je veux en faire une carrière? Là, tu t'es imposé des restrictions, imposé des limites.
Ouais, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Ça s'est passé. C'est mon coach de Forum E qui m'a viré parce que justement, je faisais trop la fête et ça le rendait fou. Et en fait, ça a été le meilleur coup de pouce qu'on m'ait donné parce que le fait de me faire virer, ça a touché un petit peu à mon orgueil et j'ai décidé de descendre avec Philippe Lucas, donc l'entraîneur emblématique de l'Orman Odou, pour voir ce que j'avais dans le ventre. Et à partir de là, ouais, j'ai commencé à changer un petit peu ma façon de penser. Toujours très festif avec Philippe Lucas, même si c'était un petit peu plus dur de tenir les deux, mais voilà, j'avais mon appartement, j'étais un peu plus grand, ma voiture, mon autonomie, donc un peu de soirée, mais avec vraiment l'envie de bien faire à l'entraînement. Et après Philippe, ça a été le dernier déclic où là, les soirées étaient vraiment bien plus espacées et choisies par rapport à l'entraînement, et là, j'avais vraiment fait le choix de vouloir faire du haut niveau, donc à partir de là, oui, ça peut être des sacrifices de l'extérieur, mais pour moi, c'était un choix, et j'avais vraiment envie de voir ce que j'avais dans le ventre. Et puis, à la fin, ça s'est plutôt bien passé.
Et Marseille, t'es arrivé plus tard
au... Ouais, je suis arrivé à Marseille, c'était septembre 2008.
Et apparemment, il y a un petit bizutage pour les nouveaux au Cercle de Marseille. Est-ce que toi, t'as eu le droit à ton bizutage ou pas ?
Il y a plusieurs choses. Déjà, pour le Cercle des nageurs de Marseille, il faut que ce soit le groupe qui accepte le fait que tu arrives. Donc ça, c'est un concept déjà...
Ah, faut être parrainé, quoi. Ouais. Ah ouais.
En gros, c'est un peu ça. Donc en fait, moi, je suis arrivé, j'ai demandé au coach d'abord. Et le coach, il me dit, ouais, ça, je pense que ça peut le faire. Viens faire une semaine de test. Et donc, je viens faire la semaine de test. Et à la fin de la semaine, il me dit, pour moi, c'est bon. Maintenant, il faut être validé par les nageurs. Et dans l'équipe, il y avait des champions du monde, des recordman du monde, qui allaient être champions olympiques quelques mois après et tout. Donc, j'arrive un peu comme un gamin. Et là, ils étaient tous assis, j'étais debout. Et le capitaine de Marseille me dit, dis-nous pourquoi tu veux venir. oh, j'étais pas prêt à ça, quoi, je m'attendais pas. Et j'ai répondu simplement, je me suis dit, bah, alors, soit je pars dans un grand discours en disant, ah, je vous adore et tout, soit je suis vraiment honnête et je lui dis, je lui réponds une phrase en disant, je pense que c'est ici que je peux devenir le meilleur du monde. Et là, il se lève, il me fait un hug et il me dit, bienvenue. Et,
voilà,
et à partir de là, bah, l'aventure a commencé. Il y a eu d'autres bizutages à Marseille où je me suis fait raser les cheveux.
Ah oui, ça, bah, j'ai entendu, c'était pas à la Réunion, non?
C'est il y ça. A eu un... ouais. Ouais, et c'était. Alors. Ils le faisaient parce qu'on était d'accord pour le faire. Déjà, c'était pas en mode...
Explique-nous alors, c'était quoi? Ils t'ont fait quoi?
Alors, on était trois à se faire bizuter.
Et t'étais avec qui?
Il y avait un Espagnol qui était champion du monde aussi, mais qui est Rafael Muñoz, il s'appelle. Et un autre qui était marseillais, mais qui a jamais percé. Et donc, moi, j'étais avec Rafa dans la chambre et on avait rendez-vous à 14h pour aller se faire raser les cheveux. On était moyen chaud, quoi.
T'avais déjà les cheveux longs et tout, là, ou pas?
Ouais, je devais avoir les cheveux assez longs, ouais. Ouais. Et donc on commence à y aller, on était dans un hôtel, et au moment où les portes de l'ascenseur s'ouvrent, on voit le troisième bisu qui arrive, et il y avait rasé la tête, mais juste le dessus du crâne, un peu à la Gargamel, tu sais.
Ah ouais,
horrible,
on, fait une
on voit sa tête, mais franchement on est dans l'ascenseur, on fait « Oh !» Et là, il fait « Ouais, je sais les gars, c'est à vous », et on était là « Non, c'est trop dur
oh !»
Et du coup on a éclaté de rire, et nous on arrive, donc... un rigolant jaune, quoi.
Ouais.
Et il me dit, bah, on avait enlevé tout le haut de ton collègue, à toi, on va t'enlever tout le reste.
Et ah, donc, ils t'ont fait une coupe au bol?
Exactement, mais vraiment avec un bol, quoi. Ils m'ont posé un bol en haut du crâne, comme ça, ils m'ont rasé tout autour. Je devais rester comme ça pendant une semaine, jusqu'au premier de l'an, et après, au premier de l'an, j'avais le droit de me raser. Et du coup, je mettais du gel et je mettais les cheveux en pique, j'avais acheté des grosses lunettes blanches, et je disais à tout le monde que j'étais un moteur, que je faisais de la moto freestyle et tout, que j'avais pas peur de la mort, c'est pour ça que je m'en foutais du style et tout. Et c'était assez drôle, je m'étais inventé un personnage pendant une semaine. C'était
oui, parce qu'apparemment, quoi. Ça, si t'avais, il y avait un petit défi dans le truc, c'est-à-dire, si t'arrivais à séduire une fille avec ce style, avec cette coupe, on t'appelait maître, c'est ça?
On m'a appelé maître jusqu'à la fin du stage et...
Et t'as réussi?
Et j'ai réussi, ouais.
En lui disant que tu faisais de la moto freestyle.
Exactement.
Et donc, 2 ans après, en 2010, tu deviens champion d'Europe. Et c'est là où ça a été un peu la folie, quoi. C'est vrai qu'à ce moment-là, on t'a vu partout, t'étais...
Ouais, là, c'est devenu dingue, parce qu'en fait, en une semaine, l'année d'avant, j'avais été 5e au championnat du monde, ce qui n'est pas trop mauvais. Et un an après, je fais champion d'Europe, et là, je deviens tout. Je deviens le beau gosse de natation française, le gendre idéal, le mec génial et tout. Et en fait, je sais que c'est pas tout à fait vrai, parce qu'un an avant, ça avait pas marché comme ça, quoi. Et donc, c'est vrai que c'était assez dingue, trop soudain. Et donc, bah, heureusement qu'il y avait mes amis et ma famille pour me garder les pieds sur terre, parce qu'à ce moment-là, c'est facile de s'envoler, quoi.
Ah ouais, t'as eu l'impression à moins de dire « je prends la grosse tête ». Enfin, est-ce que tu t'en es rendu compte ou même pas ou...
Non, je me suis rendu compte que... Alors moi, ça m'est arrivé, j'avais 25 ans déjà, donc ça faisait déjà des années que je cravachais dans un bassin, donc ouais. J'ai su tout ce que j'avais dû faire pour y arriver. Mais je me suis dit, si ça t'arrive à 20 ans et que t'as beaucoup de talent, c'est facile de partir en vrille, quoi, parce que bah, c'était soirée tous les soirs, c'était facile, je payais presque pas mes verres. Enfin voilà, c'était une semaine à Paris, c'était vraiment Disneyland pour les adultes, quoi. Donc,
Elle avait l'air bien ta semaine, parce que pareil, dans ton livre, t'en parles un peu. Il y avait 8 jours un peu fous, je crois. Et aussi, il y avait l'épisode au plus grand cabaret du monde où tu vas. Et c'est des danseuses, non, qui te mettaient carrément leur numéro dans les poches?
Ouais, du coup, j'étais vraiment... j'étais un gibier, c'était le contraire de ce que je vivais quand j'étais jeune, où j'essayais de conquérir. Et voilà, non, c'est pas désagréable, certes, mais voilà, il faut que ça dure qu'un temps. Et encore, j'avais 25 ans et ça a duré une semaine. Et juste derrière, j'ai rencontré la mère de ma fille, donc je me suis vraiment posé et j'ai arrêté tout ça. Mais c'est vrai que c'était...
T'as pas aimé, en fait, le côté de la notoriété, en fait? Enfin, très rapidement, ça t'est passé, en fait?
Ben, en fait, j'ai compris que tout était fake, quoi. Tout le monde t'adore, tout le monde te trouve génial. Mais tu sais que c'est pas ces gens-là qui vont t'aider dans la vraie vie et qui vont te faire évoluer en bien en tant que personne. C'est même le contraire, quoi. Ils vont essayer de que tu sois pas une bonne personne pour être influençable, pour partir. Donc voilà, pendant une semaine, tu pars dans ce gouffre un peu où tu te laisses emporter et très vite, tu te rends compte que... Bah, c'est pas là. Enfin, moi, en tout cas, je me suis rendu compte que c'est pas là que j'avais envie d'être et que c'est pas là où je vais m'épanouir en tant qu'homme. Et voilà, faut savoir en profiter, mais faut vite savoir retrouver ses vraies valeurs.
Maintenant, on va parler des JO, parce que toi, t'as participé à deux Olympiades. Et je sais pas si tu me dis si je me trompe, mais en tout cas, l'image qu'on a souvent des nageurs, c'est que c'est plutôt quand même des bons gros fêtards, notamment aux JO.
C'est vrai qu'on a souvent l'image du nageur fêtard. Alors,
pourquoi, à ton avis?
Bah parce que je pense que tous les autres sports nous voient faire la teuf. Parce que nous, aux Jeux Olympiques, on a beaucoup de chance, on est en première semaine. Donc les Jeux durent 2 semaines, et la 2e semaine, c'est l'athlétisme. Et tous ceux qui font les sports co, par exemple, si ça se passe bien, ça dure les 2 semaines. Et nous, la première semaine, bah, par contre, on est super concentrés, il n'y a pas de teuf qui tienne et tout, on est vraiment dans notre truc. Mais en 2e semaine, à partir de 19h, on quitte le village, et on rentre vers 6h, on prend une douche, on dort 4h, et on va encourager les potes, justement, sur les sports co, sur toutes les autres épreuves. Et tout, donc c'est une semaine où qui est éprouvante quand même. Mais
en fait, tu restes vraiment tout le temps, enfin tu restes les 2 semaines, même si t'as
fini. On reste au village, ouais. Bah, par contre, il faut savoir respecter les autres sportifs, quoi. Ouais. Quand nous on rentre, je me rappelle d'un jeu, c'était à Londres, où les basketteuses, leur échauffement du matin, leur petite routine matinale, c'était essayer de trouver les nageurs qui rentraient de teuf, quoi. Et en fait, elles faisaient le footing autour du truc, et nous on était en mode commando dans l'herbe comme ça. C'est bon, elles sont parties. Il fallait essayer de moins se faire capter possible. Et après, ça fait partie du jeu. On essaye vraiment de. Les autres sports savent qu'on va faire la fête, et nous on doit rester on sait qu'on sort, mais par contre on est là pour les encourager. Voilà, tous les jours on allait voir 2-3 sports. Enfin, c'est vraiment une ambiance particulière, mais.
Ouais, ça doit être. Ça
mais quand les sports co arrêtent, malheureusement, perdent leur compétition, ils viennent voir les nageurs pour savoir où il faut sortir. et c'est plus, je pense que c'est pour ça que la réputation des nageurs est un petit peu au-dessus, quoi. Je me rappelle des basketteurs quand ils perdent, donc pendant quelques heures, il n'y a personne. Et à un moment donné, il y a Tony qui vient, il me dit « Bon, c'est où ?» Moi, je dis « j'ai plusieurs pistes.
» Ok, on arrive à la fin de l'entretien. Alors, pour finir, je vais te demander ton panthéon personnel. Je vais te demander un livre, ton film culte, ta série, un acteur, une actrice, une chanson ou un album. Donc voilà, donc je sais pas si t'as un livre, si tu devais retenir un livre.
J'ai adoré la trilogie de Subutex. J'ai adoré cet univers de Dépente. Ouais. J'ai adoré l'univers, je trouve qu'il te fait poser beaucoup de questions sur ce qui est important dans la vie. Même si c'est assez extrême, c'est Dépente, mais, ouais. Mais j'ai beaucoup aimé. Et sinon, j'ai beaucoup aimé la biographie d'Agassi aussi, qui m'a pas mal aidé en sport. Où
il le mec dit quoi, genre, t'as retenu des trucs
Le mec est complètement dingue, en fait. Ouais. Là où il est au summum de sa forme, il est tellement pas bien dans la personne qu'il est, qu'il prend une ecstasy, il démonte sa Mustang, il démonte le moteur, il nettoie tout le moteur, il remet le moteur, il dort pas pendant 28 heures. Pendant 28 heures,
ah, je savais pas
et
ça.
Il prend un contre antidopage positif, donc il prend. Enfin, il raconte tout ça. C'est extraordinaire. Et derrière, il arrive à trouver une motivation, et c'est pour ça que c'est un des plus vieux à avoir gagné un grand chelem. Et en fait, sa carrière est magnifique, où tu vois que le mec, c'est un bijou, et qu'il est juste complètement perdu, et qu'une fois qu'il arrive à trouver un but à son sport, il rééclate. Et en fait, ça m'avait beaucoup aidé, parce que quand j'étais jeune, je savais pas trop pourquoi je faisais de la natation. Et ça m'a aussi aidé quand on parlait tout à l'heure que j'étais un peu perdu dans le monde parisien et tout. J'ai très vite su que je sais pas ce que je voulais être, quoi. Et donc il m'a pas mal aidé. Et là, je viens de commencer, il y a le week-end dernier, la biographie de Martin Fourcade, qui je sais qui est passé.
Ouais.
Et peut-être que ce sera un de mes livres cultes aussi, mais pour l'instant j'ai pas assez lu.
Alors, est-ce que la série, tu disais Vernon Subutex, t'as vu la série ou pas?
Non, j'ai pas vu. Ouais. J'ai pas regardé les premiers épisodes en direct, et direct, il y en a plein qui m'ont dit qu'ils étaient déçus.
Ouais, et du coup, je pense que quand t'as lu le bouquin, c'est...
Ouais, j'avais envie de rester sur le bouquin. Non, sur ma série préférée, alors je sais pas si tu connais, c'est Eight Sense. C'est des gens qui sont un peu, ils appellent ça des sensitifs. En gros, ils arrivent à être connectés avec d'autres personnes, mais dans le monde. C'est genre comme si t'étais connecté par FaceTime.
Ouais.
mais tu prends le corps d'un autre et tout. Et en fait, c'est super bien écrit, c'est super intéressant. Et ça sort un peu de toutes les séries Netflix. Et voilà, il faut passer les 2 premiers épisodes, mais après... J'étais fan de cette série, donc je la conseille à mort.
Okay.
Et là, je suis dans Breaking Bad.
Ah, génial. Moi aussi, parce que en fait, je l'avais pas vu. Je l'avais avoué, tout le monde me disait.
Ouais, pareil.
Quoi?
Et donc, c'est la meilleure série du monde. Et ouais, en fait, je suis assez déçu.
Ah ouais, t'es où? T'en es où?
Je suis à la saison 3, je crois.
Ah ouais. Moi, je suis moins loin là. Je suis à la 2. Ah ouais, t'es.
Ouais, parce que j'arrive pas à me projeter avec les personnages.
Ah ouais.
Et du coup, je suis.
Je trouve ça un peu dans le site, les épisodes.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais,
il y a
des trucs, c'est des malades, mais. Mais je m'attendais. Alors peut-être on m'a fait trop.
Mais en fait, moi, c'est le problème. Et quand on te survend le truc, quand on te dit que c'est la meilleure série de l'histoire de la série, moi, c'était pareil. Et tout le monde était là. Quoi? Mais t'as pas vu? Et le but, ça m'énervait, je voulais pas la voir.
C'est ça.
Au bout d'un moment, j'ai dit, allez, j'y vais.
Je me suis dit, de toute façon, confinement, allez, vas-y, je m'y lance.
Pareil.
Et ouais, non, Eight Sense, vraiment, j'ai surkiffé. Je trouve que ça change un peu, le rythme est cool, enfin, vraiment bien.
Ok, je regarderai. Ton film culte?
J'ai adoré Le Grand Bleu quand j'étais jeune, qui m'a aussi pas mal inspiré, parce que j'ai adoré cette philosophie de vie, justement, où le mec était que plongeur, quoi. Alors c'est extrême, mais j'adorais me dire que si on veut réussir et à exceller quelque part, il faut vraiment le décider de son être entier. C'est-à-dire que, voilà, pour ceux qui n'ont pas vu Le Grand Bleu, le mec est presque autiste de la plongée. Et du coup, il en met de côté sa femme, ses trucs. Alors moi, je suis pas extrême à ce point-là, mais je trouve que le message derrière, il peut être important. Et pour moi, il m'a servi à un moment donné, quand je faisais la teuf, je me suis dit, à un moment donné, il faut faire la part des choses. Donc il y avait celui-là que j'aimais beaucoup. Et après, le film culte que j'adore, c'est Le Dîner de Con, quoi.
C'est un classique,
Van sur van, c'est écrit magnifiquement bien. Donc voilà, j'adore.
Un acteur, du coup? L'acteur
DiCaprio, c'est le génie, c'est le génie aujourd'hui.
Enfin, ouais, je suis d'accord. Et une actrice?
J'avoue que quand j'étais jeune, j'étais amoureux d'Etta Jones dans Zorro.
Ah, Catherine Zeta-Jones.
Ah ouais, dans Zorro.
Et dans, c'était quoi, Haute Voltige, non, aussi?
Ouais. Et après, elle a eu le malheur de rencontrer Monsieur Bistouri, mais avant, là, c'était bijou il y a 15
jolie,
ans.
Ouais. Ouais. Ouais, très jolie. Et est-ce qu'il y a une chanson ou un album? Est-ce qu'il y a même d'ailleurs avant les compètes, est-ce que tu écoutes de la musique? Il y a des trucs qui te...
Ah, moi, j'ai toujours aimé faire différent des autres. Donc, en fait, quand je voyais des mecs avec des casques sur les oreilles...
Tu les vois souvent avec
tout
des casques.
Tout le temps. Et du coup, je me suis dit, moi, je vais pas le faire. Alors, pourquoi? J'arrivais à me mettre dans ma bulle tout seul. Et en plus, j'aimais bien me dire, les mecs qui sont dans sa bulle, ils sont là comme ça avec leur Walkman. Et dit, tout le monde les a, les 7, sauf moi. Et du coup, ils se disent, pourquoi lui, il l'a pas? Et du coup, le fait d'être différent, ça te donne un truc de plus, tu vois. Et en fait, dans ces moments-là, ça se joue à tellement rien. C'est le premier qui va lâcher psychologiquement, quoi. Et s'il se dit, lui, il n'a même pas besoin de ça, c'est qu'en fait, il est plus fort que moi.
Ah, tu crois que ça joue vraiment, ça?
Je sais pas, mais je pense que c'est une addition de mini-trucs. Ouais. Et en tout cas, moi, ça m'aidait à me dire, moi, j'ai pas besoin de ça, donc en fait, vous avez besoin de votre musique, moi, je suis au-dessus de vous, quoi, déjà. Et en fait, ça aide, dans le personnage, ça peut aider. Donc voilà, j'écoutais pas de musique, mais dans le bus et tout, j'aimais bien écouter 8 Miles. Je trouve que c'est un album qui met tout le temps la pêche et tout.
Ouais.
J'aimais beaucoup. Avec 50 Cent, enfin, 8 Miles et 50 Cent, j'aimais bien ce bon vieux rap américain-là.
Ouais, c'était une bonne époque, ça. Ok, voilà, c'est fini. Merci beaucoup, Camille.
Avec plaisir.
C'était super cool. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et mettez des petites étoiles si ça vous a plu. Comme ça, on sera mieux référencé et on pourra dépasser Nicolas Canteloup au classement des podcasts. Et ça, c'est la méga classe. Merci d'avoir écouté Champion. À la prochaine. Salut.
It's Owen and Murph here, and we want to talk about the good people at Now who are sponsoring this episode and have some exciting news to tell us about the return of the Formula One season, which kicks off on March 2nd.
Oh, well, this sounds great, but where do I catch all of this high-octane action?
Murph, you can stream all the F1 Sky Sports action without a contract for just €20 a month for 12 months with a Now Sports membership. If Formula One's your game, then Now is the name.
You're really revving my engine, McDevitt.
Ah, pit stop it with all the puns, Murph.